RJB Info, Olivier Zano.
Bonsoir. Un couple de personnes âgées a été retrouvé sans vie samedi après-midi à Malraix. Des traces de coups de feu ont été constatées sur les corps des deux personnes. Les explications de Thomas Nagy.
C'est suite à un appel que les forces de l'ordre se sont rendues vers 13h25 au domicile du couple. Elles n'ont pu que constater le décès des deux personnes, un homme de 89 ans et son épouse de 87 ans. Selon les éléments actuels, une intervention extérieure peut être exclue. Précision de la police cantonale et du ministère public, jura Bernois Seyland dans un communiqué. Une arme à feu a été mise en sûreté. Nous avons contacté le maire de Valbirse. Jacques-Henri Youffert s'est dit attristé par cette nouvelle. Il évoque un couple discret sans histoire qui s'affairait encore cette semaine autour de la maison. On ignore les raisons du drame pour l'heure. Le déroulement exact de l'événement fait l'objet d'une enquête.
Les associations caritatives doivent aussi se réinventer en période de pandémie. La solidarité se retrouve souvent en bout de chaîne. Difficile donc de récolter des fonds alors que certains peinent déjà à voir le bout du tunnel. L'association Ella Suisse, basée à Tavannes, vient en aide aux familles touchées par les maladies orphelines appelées leucodystrophie. Un coffret sanitaire ou health box a été conçu pour ramener un peu d'argent dans les caisses. Un projet que nous détaille le directeur d'Ella Suisse, Pascal Priamo.
L'histoire, en fait, démarre lors du week-end des familles 2020 de l'association Ella Suisse, et un papa ici de la région, Desvillard, nous présente un étui pour protéger les masques, et on se dit « ok, c'est produit en Chine, mais est-ce qu'on ne peut pas produire ce genre d'étui en Suisse ?» Et on a pris contact avec la société Biela AG de Bruck, qui est le plus grand fabricant d'articles de bureau en Suisse, qui travaille ce genre de matière et qui a été d'accord de développer en fait des étuis pour mettre les masques à l'intérieur et de le faire en faveur d'Ella. Et ensuite, on s'est dit que ça serait intéressant, avec ces étuis, qu'on ait un petit kit sanitaire. Et là, il y a eu différents contacts, notamment avec la société Amina 3, qui produit des masques chirurgicaux à Corgémont. Et un autre contact important avec la distillerie Moran, qui, elle, produit des solutions hydroalcooliques. Et on a réuni en fait ces trois produits qui, dans un petit coffret sanitaire qui permet justement de prendre soin de la santé des personnes qui reçoivent ce kit sanitaire.
Et ce kit, vous pouvez vous le procurer en ligne. Plus d'informations sur notre site internet. Petit détour par le canton de Neuchâtel, les citoyens élisent leurs autorités cantonales aujourd'hui. L'élection au Conseil d'État n'a permis à aucun candidat d'être élu dès le premier tour. Les deux sortants PLR, Alain Ribaud et Laurent Favre, sont en tête, suivis par le sortant PS Laurent Courte. La majorité de gauche pourrait être menacée. Le numérique peut être le prochain combat en matière de protection de l'environnement. La société neuchâteloise Canopée, fondée en juillet dernier, se donne pour mission d'accompagner les entreprises qui souhaitent diminuer leur empreinte numérique, soit la pollution créée par les outils informatiques et de télécommunications. Les entreprises sont par exemple invitées à prolonger la durée de vie de leurs équipements ou encore à mettre au point une stratégie de nettoyage de leurs données, gourmandes en énergie du point de vue de leur stockage. Il faut savoir que le numérique constitue aujourd'hui une source croissante de pollution. Quelques chiffres avec Ivan Marie-Blanca Flinch, fondateur de Canopée.
Le numérique, ça englobe l'informatique, Internet et tous les réseaux de télécommunications. Donc c'est assez vaste comme sujet. En 2020, le numérique a pollué autant que tout le transport aérien, donc 4% des émissions de gaz à effet de serre, a consommé 10% de l'électricité mondiale produite et a consommé plus de 1000 milliards de litres d'eau potable, ce qui est énorme. Du coup, en 2025, on prévoit que l'impact environnemental sera beaucoup plus important. On prévoit jusqu'à 8% de gaz à effet de serre, ce qui représente tout le trafic routier mondial. Et pour la quantité d'électricité et d'eau, on considère qu'on va tripler la consommation de ces deux ressources énergétiques.
Canopée invite aussi les entreprises à stocker leurs données en Suisse et à favoriser les outils informatiques locaux pour préserver l'environnement et gagner en sécurité. Des oisillons tombés du nid et qui se retrouvent à même le sol, vous en avez peut-être déjà observé. On peut penser qu'ils sont en danger, mais pas forcément, c'est ce qu'indique la station ornithologique suisse cette semaine. Les explications de sa porte-parole, Chloé Pang.
En fait, chez certaines espèces, les oisillons ils quittent le nid avant de savoir bien voler. Pour les reconnaître, c'est assez facile. En fait, ils ont déjà énormément de plumes, ils savent sautiller. Et en fait, c'est une technique pour que si jamais il y a des prédateurs qui découvrent le nid, tous les oisillons ne se fassent pas manger. Donc en fait, si on trouve un oisillon qui correspond à cette description sur le sol, il n'a effectivement pas besoin de notre aide. en général.
En général, vous dites, ça signifie que parfois, quand même, il y a des situations où ces oisillons, ils peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce.
Oui, exactement. Si lors de leur première sortie du nid, ils tombent dans un endroit qui est peu approprié, au milieu d'une route par exemple, ou alors dans un endroit où on voit qu'il y a énormément de chats et de prédateurs à proximité, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est simplement le prendre et le déposer dans un buisson, un peu plus à l'abri, et ça suffit.
Il arrive aussi que des oisillons tombent du nid accidentellement et bien trop tôt. Ils sont généralement sans plumes, parfois blessés. Dans ce cas-là, il est recommandé de se rendre dans un centre de soins. Il est donc demandé de ne pas les emmener chez soi. La station ornithologique rappelle que la détention et le soin des passereaux indigènes nécessitent non seulement des connaissances spécialisées, mais aussi une autorisation cantonale. On reparle du retard de livraison des doses de vaccin Moderna en Suisse. Après les protestations de plusieurs cantons, dont celui de Berne, l'Office fédéral de la santé publique assure être immédiatement intervenu auprès de Moderna pour qu'au moins une partie de la livraison lui parvienne. Il cherche avec les cantons des solutions pour éviter que les rendez-vous fixés ne doivent être reportés. L'Office souligne également que des centaines de milliers de doses non utilisées se trouvent encore en Suisse. Le chef de l'État allemand a profité aujourd'hui d'un hommage national aux 80 000 morts du Covid pour exhorter le pays à l'unité. L'Allemagne fait face aux divisions croissantes sur fond de restrictions imposées par Angela Merkel pour contrer la pandémie. Frank-Walter Steinmeier a justifié des mesures difficiles pour éviter, selon lui, une catastrophe encore plus grande. Et cette autre réalité en Israël, où les habitants marchaient dans les rues, visage barré de masques sanitaires depuis une année, eh bien ce dimanche, ces derniers sont tombés à l'extérieur, une première victoire contre le coronavirus dans le pays. À l'intérieur, les masques sont toujours obligatoires. Les ravisseurs de la petite Mia seraient entrés en Suisse en passant par le canton du Jura. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le procureur de la République de Nancy, François Perrin, lors d'une conférence de presse. La fillette de 8 ans avait été enlevée à la demande de sa mère par trois hommes mardi dans les Vosges. Les ravisseurs ainsi que la mère de l'enfant auraient passé la frontière à pied au Mérat près de Buis. C'est de là qu'ils se sont ensuite rendus à Estavayer-le-Lac, puis dans un squat à Sainte-Croix où ils ont été appréhendés par la police aujourd'hui. Il n'y a plus le temps, il est temps d'agir. Les alliés du principal détracteur du Kremlin, Alexei Navalny, emprisonné et en grève de la faim, ont appelé dimanche les Russes à manifester ce mercredi pour sauver la vie de l'opposant. Celui-ci est gravement malade selon ses soutiens. Une journée qui s'annonce détonnante. Le président Vladimir Poutine doit aussi tenir son discours annuel devant les deux chambres du Parlement. On passe au sport. Qui peut détrôner Young Boys? Le club de football bernois a été sacré pour la 4e fois consécutive cet après-midi à domicile, champion de Suisse après sa victoire contre Lugano 3-0 en Super League. Cette saison, la troupe de Gerardo Seoane a réalisé une performance de haut vol malgré un effectif remanié. Les explications de Damien Piscopiello.
4e titre consécutif et son propre record de précocité battu. Les chiffres du sac d'Ibé ont de quoi donner le tournis. Couronné à 7 journées de la fin de la saison, la troupe de Gerardo Seoane a encore une fois écrasé la concurrence en ne laissant que des miettes. Les plus caustiques diront que le succès des Bernois s'explique par la faiblesse de l'opposition en Super League. Alors oui, le football suisse est à la croisée des chemins et doit se remettre en question. Néanmoins, il serait réducteur de penser que le succès d'Ibé est uniquement dû à cela. En effet, le club bernois est un modèle de gestion sportive et financière. Le remplacement des cadres est systématiquement anticipé, le recrutement est malin et les jeunes sont mis dans des conditions idéales pour éclore. La saison prochaine, le prochain palier se situera pour les Bernois en Europe. Malgré son beau parcours de cette année, Young Boys est encore trop irrégulier et peine à assurer les intérêts du football suisse sur la scène continentale.
Et dans les autres rencontres de la journée, Bâle a étrié Servette 5-0 et Lausanne a pris la mesure de Vaduz 2-1. En Formule 1, Max Verstappen a remporté le mouvementé Grand Prix d'Émilie-Romagne cet après-midi en Italie. Sur un circuit humide, le pilote néerlandais de Red Bull a pris le meilleur sur Lewis Hamilton. Le Britannique, sorti de piste à la mi-course, a effectué une superbe remontée pour passer du 9e au 2e rang. La 3e place est revenue à un autre Britannique, Lando Norris. A noter également l'abandon de Valtteri Bottas du côté de Mercedes. En MotoGP, Fabio Quartararo a survolé le Grand Prix du Portugal. Le pilote français s'est imposé en solitaire cet après-midi à Portimao. Le nouveau leader du championnat a précédé l'Italien Francesco Bagnaia et l'Espagnol Joan Mir. 6e des qualifications, le revenant espagnol Marc Marquez a accroché une probante 7e place. On passe au tennis. Stefanos Tsitsipas accueille son premier Masters 1000 aujourd'hui à Monte Carlo. Le grec a dominé le russe Andrei Rublev 6-3-6-3 après 1h11 de jeu. Et toujours dans le monde de la petite balle jaune, Roger Federer a lui confirmé sa présence au Geneva Open. Le Ballois foulera donc les cours des eaux vives lors du tournoi lémanique prévu du 16 au 22 mai. Enfin, en cyclisme, Van Aert s'est adjugé l'Amstel Gold Race aujourd'hui aux Pays-Bas. Le coureur de la Jumbo-Visma l'a emporté à la photo finish après les 216 km autour de Valkenburg. Le Britannique Tom Pidcock a pris la deuxième place alors que l'Allemand Maximilian Schachmann a dû se contenter du troisième rang. Et avant de vous quitter, quelques mots sur la météo qui nous attend. Cette fin de journée et ce soir, un ciel nuageux avec quelques averses épars sur le Jura, belles éclaircies sur le Seeland en revanche. Demain, un temps dans l'ensemble assez ensoleillé avec des bandes de nuages bas le matin et des développements nuageux l'après-midi. On devrait rester au sec selon les experts de Météo News. Le mercure restera bloqué entre 1 et 3 degrés au lever du jour. C'est toujours bas pour la saison. Il grimpera jusqu'à 10 à 13 degrés au meilleur de la journée. Je vous souhaite une très belle soirée à notre écoute et d'ores et déjà un très bon début de semaine.